Planète Racing. Planète Racing. Planète Racing. L'émission 100% Racing avec Frédéric.
Il est 20h01 au Stade de la Mélodie partout en France. Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planète Racing sur ABS 91.9 FM. Nous sommes en direct de la place Kléber pour une émission consacrée au Racing Club de Strasbourg, le club strasbourgeois. Toujours au cœur de l'actu, toujours au cœur de la vie strasbourgeoise. Le Racing qui s'est qualifié brillamment, tranquillement, on y reviendra tout à l'heure face à Oberhausen-Folsheim, il faut le dire, c'est difficile à dire, hein. Racing qui s'est qualifié contre Oberhausen-Folsheim. Hein ?
Il y a Oberhausen.
Ouais, j'étais pas loin, mais c'est vrai que c'est pas évident quand même de se dire le Racing joue contre Oberhausen-Folsheim. Voilà, bon, en tout cas le Racing qui s'est qualifié 9-1, on y reviendra tout à l'heure avec nos chroniqueurs et avec nos invités. Du monde ce soir en studio, beaucoup de monde, puisque nous avons, comme maintenant, tous les premiers jeudis de chaque mois, le jeudi des supporters, où nous invitons donc des supporters et des supportrices. Et aujourd'hui, ça sera la Fédération des supporters représentée. Alors vous êtes nombreux, hein, on va peut-être faire le tour. Bonsoir Grégory, bonsoir Philippe, bonsoir Anaïs.
Bonsoir.
Bonsoir tout le monde. Ils nous accompagneront pendant cette heure, on parlera bien sûr du Racing Club de Strasbourg. Alors, avant l'émission, on se disait, ouais, bah oui, la dernière fois que vous êtes venu, c'était quand? Ah ouais, ça fait déjà pratiquement deux ans et demi. Il y a des choses qui sont passées en 2 ans et demi, on y reviendra tout à l'heure. Maintenant, comment ça s'est passé? Comment ils ont vécu tout ce qui s'est passé aussi depuis 2 ans et demi? Et comment se passe bien sûr cette saison avec les animations et les activités que la Fédération des Supports propose à ses membres et à l'ensemble, bien sûr, des supporters du Racing Club de Strasbourg? Bah, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, hein. Cette victoire du Racing Club de Strasbourg, monsieur Paolo, bonsoir aussi.
Bonsoir.
Monsieur Anthony, bonsoir aussi.
Bonsoir.
Voilà, beaucoup de monde, hein. Bientôt devoir faire casser le mur derrière. Peut-être petit avis sur cette victoire du Racing, 9-1. C'est vrai que c'était une D1 en face, c'était de la Coupe de France. C'est toujours bon pour le moral. On a retrouvé surtout un David Lédy buteur, parce qu'il en a marqué 5. Un Julien Perrin, très en forme aussi, puisqu'il a enchaîné et les buts et les passes décisives. Peut-être, Paolo, un petit avis sur cette rencontre?
Moi, j'y étais pas, donc je laisse la...
Ah, t'es assez au chaud, toi, ouais.
Ouais, non, mais j'ai eu un souvenir assez mauvais de l'an passé contre Lutenheim, contre une D2, hein.
D1 aussi.
Une D1 où ça s'était pas très bien passé. Non, mais j'y étais pas pour d'autres raisons. En tout cas, je laisse peut-être la parole à ceux qui y étaient.
On va laisser la place à la fédération. Greg, peut-être un petit avis sur ce déplacement très très lointain et surtout sur la météo la plus pourrie qu'on avait de la saison.
Bah, c'est vrai qu'on s'est bien caillé, mais surtout on a vu un Racing qui a largement battu un adversaire, certes largement inférieur, mais il a pas souvent été capable de le faire par le passé. Il a tué le match d'entrée, il a été sérieux, on s'est qualifié. Bon, bah, le boulot a été fait, bien fait.
Tant mieux, hein, parce que c'est vrai que Paolo, tu le rappelais, Dutlenheim, moi j'ai rencontré François
l'an dernier, Keller, c'était incroyable parce que je crois qu'au bout de 75 minutes, il y avait toujours 0-0
87 minutes.
Mais à 75 minutes, t'as une super occasion pour Dutlenheim qui pouvait mener à 0, quoi. Donc du coup, tu te dis un an après, bon, 9-1, ça, est-ce que les choses ont changé à ce point-là? Je ne sais pas, mais il y a quand même
une
grosse différence, quoi.
C'est qu'on n'avait pas le sentiment qu'ils faisaient un match extraordinaire, en fait. Ils tenaient le Racing en faisant juste leur match.
C'est ça, ouais.
Non, juste pour revenir au match de Berchefolsheim, moi j'avais prédit un score à la sourde.
J'avais
prédit un score à la sourde. Moi, j'étais
t'as perdu
pas loin.
Parce qu'il y en a eu plus.
Il y en a eu plus, ouais, mais bon, c'est presque logique avec le nombre de divisions d'écart.
La sourde, Samir Hadji. Qui avait marqué
aussi. Donc.
Non, c'est pour dire que...
Ouais, que l'équipe était vraiment... Non, mais enfin, en tout cas, le Racing a fait un match sérieux. À noter quand même une super belle occasion pour David Lédy au bout de 2-3 minutes, où il tire à côté du but. Hein, le but vide, il n'a plus qu'à la mettre, il la tire à côté. Derrière, c'est quand même rattrapé. Après, tu disais, bon, il en a mis 4 ou 5.
Bon, ce qui est con maintenant, c'est qu'on se tape un tirage inintéressant, encore une fois. Vettelsheim, c'est ça ou
Wittenheim. Inintéressant, tout est relatif, puisque.
Bah, on espérait quand même, je sais pas, un Metz à domicile ou quelque chose d'un petit peu.
C'est toujours mieux qu'une nationale pourrie.
Ouais, ou alors, oui.
Au moins, on devrait se qualifier.
Hein. C'est vrai que c'est moins pire que. Merde. Putain, j'ai une mémoire de merde. Drancy, là, c'était vraiment le pire tirage la saison passée.
Et en plus, faut le rappeler aussi, c'est que si maintenant le Racing avait tapé une Ligue 2 à l'extérieur, eh ben on y partait, hein, parce qu'il y avait pas de division d'écart, donc on aurait pu avoir un truc un peu moyen, voilà.
Cru comprendre qu'il y avait plus ce système de poules et que c'était nouveau des vraies divisions qui faisaient les deux divisions d'écart depuis cette année.
Ouais, donc On aurait pu. Moi, je préfère jouer un petit encore, Paolo, personnellement.
Bah, plus on a, enchaîné, plus voilà. on a de chance de passer. Enfin, c'est ma théorie qui tient qu'à moi, mais.
Moi, mon rêve, c'est de gagner la Coupe de France. Après, c'est vrai qu'il y a un peu de chance, mais.
Qu'importe l'équipe en face. Vaut mieux avoir des petits jusqu'au bout.
Ouais, mais tu fais tant d'efforts et au bout de, des 16e ou des 32e, tu te tapes, je sais pas, le Rancy à l'extérieur, tu mènes 2-0, tu perds, au tir au but ou, enfin, c'est, ça sert à rien, quoi. Autant perdre contre le PSG ou contre un gros club en, voilà. Enfin, compte tenu de l'expérience de la saison dernière qui était quand même vachement décevante finalement quoi.
En tout cas, juste pour en revenir sur le match, j'ai trouvé le Racing intéressant. Bon, tu me diras en face toute la semaine il y a des chauffagistes, des boulangers et des bouchers, mais quand même le Racing était intéressant, a mis de la vitesse. Contrairement
et du réalisme surtout parce que 15 occasions contre une quinzaine d'occasions Julien Perrin disait
enfin,
encore
du réalisme réalisé. Même pas tellement hein, parce que on en a raté
mais c'est vrai que 9 ans
il y avait un bon gardien
9 ans je sais pas qui a souvenir d'un tel écart mais moi j'en ai même pas souvenir donc ça a dû jamais arriver en fait en 20 ans enfin moi ça fait depuis 20 ans que je supporte le Racing je sais pas toi Greg ou Philippe non jamais
j'ai pas souvenir d'avoir vu 9 buts en compétition
voilà faut quand même qu'on en profite merde.
C'est vrai que dans les années 90, il y a eu des gros scores, mais c'est la fin. Enfin bon, après, ça reste exceptionnel.
Ce que je voulais dire, c'était très intéressant. Le Racing accélérait le jeu. Et puis, on voit Zerbini, un très bon match de Zerbini, où Zerbini a mis deux buts quasiment identiques, où le défenseur prend un peu la flotte, il lui met un petit coup de rein et marque du gauche dans le petit filet. Zerbini, qui peut être une alternative à Stéphane Noro, c'était dans le schéma... le premier schéma français.
Faire qu'un Noro.
Oui, ça peut être une alternative. Quand Noro est un peu moins bien, un Zerbini. Et je disais, on se souvient du Racing contre Chasselet, j'y étais pas, vous y étiez sûrement. Ou contre Alfortville, où là, le Racing était dégueulasse, excusez-moi l'expression, un Racing sans mouvement.
C'est quoi le Maccabi là?
Ouais.
Pourquoi ça s'appelle Maccabi maintenant en fait?
Parce qu'ils ont fusionné.
D'accord.
Ils ont fusionné plusieurs clubs.
Ah. Et par l'autre, tu suis plus rien. Ah, quoi.
Non mais je ne suis pas l'actualité du Maccabi, Alfortville, Tel Aviv, Paris.
D'accord. Lugia, attends.
D'accord. Lugia, ouais.
Donc non, mais... oui, je disais là, le Racing a plutôt l'habitude de passer côté droit. Là, on a vu le Racing passer côté gauche. Le fait qu'il n'y ait pas Guignery non plus peut aider aussi, puisque Guignery n'est pas le Manuel dos Santos des années 2005-2006, si je me trompe pas. Donc voilà, c'est un match intéressant à confirmer dès ce samedi face à Auxerre 2, qui viendra renforcer.
Donc les derniers, donc là, une victoire est attendue, mais surtout contre Mulhouse.
Mais moi, je dirais plutôt parce que Auxerre peut être un match déjà intéressant. Ils sont au fond du trou, tu le disais dernier, et avec des joueurs d'expérience. Le gardien, c'est Olivier Sorin, qui doit avoir au moins 150.
Et l'entraîneur, c'est Johan Radé,
qui a un souffle au cœur.
Qui avait arrêté sa carrière suite à son transfert au Racing, qui n'a jamais finalement abouti, puisque la visite médicale avait diagnostiqué un petit problème au cœur à l'époque. Ouais. C'était en 2007, je crois.
Il reviendra quand même au Racing, mais pas sous les couleurs du club alsacien. À noter quand même, en Coupe de France, ça doit faire maintenant, on le disait, un an et demi que le Racing ne jouera pas à domicile. Encore une fois. Non, je sais pas, on y est.
Je crois que la dernière fois, c'était contre Lyon, quand on perd 3-1, si je dis pas de bêtises. Il me semble que c'est la dernière fois, c'était en janvier.
Vous qui étiez à tous les matchs, Greg, vous aurez souvenir, ça, non? Greg, il fait partie de la catégorie des gens qui se souviennent pas, comme moi, de tous les matchs, en fait.
Et Vian, c'était de la Coupe de la Ligue ou de la Coupe de France?
C'était Coupe de la Ligue. Ouais. Coupe de la Ligue.
Les deux fois? Parce qu'on les a joués l'été, on les a rejoués l'hiver, non? Ou c'était deux années de suite?
En fait, oui, c'était deux années de suite. Il y avait le 2-2 en début de championnat où c'était.
Sous Jaffar,
quand on gagne 1-0, c'était Coupe de la Ligue aussi.
Ah bon?
Ah non, bah non, c'est la même saison.
Ouais, mais non, c'était pas la même saison.
On va chercher.
On vous met au défi.
Je pense que c'est la Coupe de France.
On vous met au défi, mais moi, ouais, à la limite, ça...
Mais peu importe, ouais. Je crois que les gens s'en foutent.
On a perdu en Coupe de la Ligue en début de saison, et après, on avait perdu à Angers 2-0.
Ah oui. C'était un souvenir glorieux avec le Racing, encore une fois.
En tout cas, le Racing jouera du côté de Wittenheim ce prochain tour. Ça sera dans 15 jours maintenant. On espère bien sûr que le Racing passera de nouveau ce cap. Wittenheim qui est actuellement avant-dernier de division d'honneur régionale. Donc il y a peut-être la place quand même de faire quelque chose, sûrement même.
Pas d'excuses.
Pas d'excuses.
Le match pourrait se jouer au stade de Lille.
Un retour, du coup, vous avez. Du coup, peut-être des gens qui vont rester au stade de Lille pendant 8 jours.
Ouais, bon, je pense qu'il y a des meilleurs endroits pour une villégiature. Hein.
Voilà, donc le stade de Lille que les supporters, on va en parler bien sûr après de votre déplacement et ce qu'il y avait prévu pour ce choc. Alors, tout ce deal alsatico machin, etc. Bon, on va l'appeler.
Non, mais on peut éviter les surnoms. Ça, enfin, non, mais c'est ridicule, hein. Bon, bref, choix Cusico, machin quoi. Enfin, bref.
Soyons sérieux.
Mulhouse, Racing, tout simplement, quoi.
Et le vrai débat, depuis quand le Racing n'a pas affronté le FCM? Moi, je dirais 97, 98. 80.
Non, 92.
Ah oui, c'est
92,
ça.
92. Ouais.
Moi, je sais pas. Hein, c'est pour
la
ça,
saison de la remontée 91-92 avec Grèce aux manettes. Et, la saison qui s'est conclue par le mythique match contre Rennes.
Chilas. Voilà, le Racing, bah, donc il jouera en Coupe de France. Voilà, on espère voilà une bonne performance. Alors, ce qui est marrant aussi, c'est que la réserve du Racing a joué à Ivitenheim la semaine dernière. Ça, c'est assez drôle quand même. Ils ont fait un partout. Donc, voilà, donc on espère
bien.
Pas
de bon augure. Hein. Hein, pas de bon augure.
Ah, c'est pas la même équipe. Hein. Allez, on va parler bien sûr de nos invités aujourd'hui, la Fédération des supporters du Racing Club de Strasbourg. J'ai un peu donné la première question avant en émission et je la repose maintenant. Qu'est-ce qui a changé depuis votre venue? Pour vous, la Fédération a grandi, bien sûr, sûrement. Qu'est-ce qui a changé aussi au niveau du club? Parce que depuis 2 ans et demi, on en a vu des vertes et des pas mûres. On en a pris dans la figure de tous les côtés. Mais
peut-être Fred, pour d'abord les auditeurs, que les auditeurs comprennent.
Qui est
la Fédé? Qu'est-ce que la Fédération des supporters? Voilà, quelles associations représentent la Fédération des supporters et quels sont les buts peut-être de la Fédération des supporters?
Ben, la Fédé, en deux mots, c'est d'une part la réunion des deux associations les plus actives ces dernières années, à savoir les UB90 et le KCB, qui évidemment ont leur vie propre toujours, mais qui de temps en temps se réunissent pour agir sur des thématiques communes avec nous, du coup, et qui se réunissent aussi avec des supporters, on va dire indépendants, qui font partie d'aucune structure existante, mais qui, je dirais, se mettent tous ensemble pour agir sur des thèmes qui avaient été délaissés ces dernières années. Donc je pense notamment à la culture club, à la culture déplacement pour le grand public, à une vie associative qui pourrait intéresser aussi un large public de supporters. Donc voilà, la Fédé, c'est simplement, comme son nom l'indique, une réunion de supporters de tous horizons.
Donc si je comprends bien, il y a deux types de supporters à la Fédé. Il y a les supporters affiliés donc aux UB90 et au KCB, comme Ciel et Blanc et Ultrabus 90, et les supporters, on va dire, non affiliés qui choisissent de rejoindre la Fédé, qui est finalement un organe un peu plus neutre que les UB ou le KCB.
Voilà, et avec la particularité pour la Fédé de ne pas avoir d'existence au stade. Puisqu'on est vraiment concentré effectivement sur la vie associative et la vie en dehors des matchs. Quoi.
Donc il n'y a pas de bataille pour un coin de tribune, pour tel tifo, enfin c'est ce qu'on voit parfois dans les tribunes, hein, c'est
non, y a pas
à Strasbourg mais de façon générale.
Il n'y a pas de tribune D'accord. affiliée à la Fédération des supporters, il n'y a vraiment aucun affichage et voilà, nous notre point d'existence c'est le local qu'on anime à la Méno.
Et comment vous arrivez à fédérer toutes ces associations? Parce que des fois il doit y avoir des opinions divergentes entre les associations, comment vous arrivez à trouver un point d'existence?
Déjà, ce qu'il faut bien rappeler, c'est que la Fédé est née il y a 2 ans et demi, à un moment où le club était qui risquait de mourir, en fait. Donc, à ce moment-là, forcément, tous les supporters, y compris ceux qui n'avaient pas grand-chose en commun, mais avaient la même crainte. Et du coup, c'est plus facile, c'est clair, à ce moment-là, d'essayer de créer quelque chose pour agir ensemble. Et après, on est parti de ça pour essayer, effectivement, de construire quelque chose. Après, effectivement, comme tu le dis, on n'est pas toujours d'accord. Mais je crois qu'on a toujours su se mettre autour d'une table et essayer de discuter. Parce que, à partir du moment où on a la même passion, la même envie de faire des choses, même quand il y a des désaccords, on a toujours réussi, y compris dans les moments difficiles, parce qu'il y en a eu, c'est clair, on a toujours réussi à...
Ah oui, je pense qu'on a une autre dose, j'espère, pour 100 ans, hein, parce que...
Je pense aussi, du coup, en interne, parce que c'est vrai qu'en fonction des événements qui se déroulent au Racing, les gens peuvent avoir des visions différentes, mais pour le moment, on a toujours réussi à trouver une base de travail.
Alors, je vais juste poser une question par rapport au nombre d'associations qui font partie de la Fédé. Maintenant, actuellement, c'est deux associations, tu dis, hein, KCB et UB90. Moi, j'avais connaissance, un peu comme tout le monde, hein, sur le site internet, on voit, il y a quelques années, il y a 2 ans, donc, il y avait KCB, UB, Allez les Bleus champions, allez les Bleus champions, et donc
Info Racing
de notre ami Fred qui se cache derrière son casque.
Je parlais à mon casque.
Non, mais qui regarde d'ailleurs. Mais
en ce qui concerne l'ABC, ils font toujours partie de la Fédé, mais c'est vrai qu'ils.
Oui, histoire qu'on sache comment.
Ils n'ont pas aujourd'hui une existence. Enfin, d'accord. Voilà, c'est plus un groupe d'amis.
Petit groupe.
Voilà, c'est ça. Et pour ce qui concerne Info Racing, on continue d'ailleurs de travailler de temps en temps avec notamment Frédéric, puisque on a travaillé notamment sur.
Tu ne les aurais pas invités. Voilà.
sur la maquette de la Méno qu'on a rénové grâce notamment à Frédéric qui a une connaissance
à mon parrain qui a retapé la maquette du stade. Voilà, pour ceux qui se posaient la question, vous avez vu je sais plus quand c'était, fin de saison dernière,
c'était il y a un an.
Voilà, parce que la fédération l'avait récupéré dans un état, on peut même pas dire pitoyable. C'est un crève-cœur de laisser une maquette comme ça dans un coin de bureau.
Elle est où alors, cette maquette?
Elle est pas visible.
Alors là, la maquette aujourd'hui, elle est cachée dans un coin du stade puisqu'il y a eu la rénovation de toute la partie.
Ils l'ont remis sous un coin de tribune
En fait, le concierge nous a prévenu qu'il était temps de l'évacuer puisque la ville récupérait quasiment tous les locaux et que vu que tout allait être rénové, elle risquait de souffrir des travaux, et donc là, le transfert est prévu dans les prochains jours. On va la mettre à l'abri quelque part pour être sûr qu'elle ne soit plus détériorée à l'avenir.
Ouais, parce qu'elle était vraiment dans un piteux état, et donc ça a été refait voilà en collaboration avec si on veut Info Racing et la Fédération des supporters. Et maintenant elle est comme dans un état et déplaçable et aussi proposable au public, parce que voilà, elle a été repeinte et nettoyée, tout ça voilà.
Et du coup, je parlais de la Culture Club, l'intérêt de cette rénovation, c'est justement aussi de la sortir de temps en temps. Donc on l'a sortie notamment lors de la journée des supporters qu'on a organisée avec le club au cours de l'été. Donc l'idée, c'est pas de laisser cette maquette dans un coin, c'est de pouvoir l'exposer de temps en temps lors de différentes manifestations.
Alors la Fédé des supporters a plusieurs objectifs, dont défendre la Culture Club, ce que tu disais juste avant. Qu'est-ce que la Culture Club selon toi justement? Qu'est-ce que parce que les gens s'imaginent pas forcément ce que c'est que la Culture Club quoi. Qu'est-ce que défendre la Culture Club tout simplement?
Pour moi, il y a deux aspects importants. C'est d'abord valoriser l'histoire du Racing. Sans en faire trop, parce que effectivement l'histoire du Racing c'est une histoire assez mouvementée, donc on n'est pas là en train de dire que tout allait toujours très bien, parce que c'est pas le cas, mais il y a quand même eu des bons moments, il y a quand même une histoire riche, et donc il nous semble important de valoriser cette histoire-là. Et puis d'un autre côté, c'est aussi de créer des liens finalement avec les acteurs du Racing, que ce soit les joueurs ou les dirigeants, d'avoir créer une sorte de proximité. Et donc ça, concrètement, ça se manifeste par justement la vie au local, puisqu'on fait venir régulièrement des gens au local. On a fait venir récemment Stéphane Neuro, Marc Heller, François Keller. On a aussi fait venir des anciens joueurs, d'anciens dirigeants comme Roland Véler, Gilbert Grèce, Alex Wenzel.
Il faut quand même dire que ces venues-là, c'est un moment privilégié pour les supporters qui peuvent partager avec vous, puisque les gens ils sont là souvent pendant 2 heures et vous pouvez leur poser toutes les questions que vous voulez.
Ça.
Quoi.
C'est évidemment ouvert à tout le monde et ça se fait dans une ambiance conviviale.
Si je peux me permettre, les quelques fois, ça fait quand même une dizaine de fois, je pense à peu près, que j'ai été aux rencontres justement joueurs, supporters, ou alors c'était les anciens dirigeants, les anciens entraîneurs, etc.
J'y étais pour Gilbert Grèce, c'est pas possible.
J'y étais pour Gilbert Grèce, j'y étais pour Jacques Duguay-Perrault, pour d'autres, pour d'anciens joueurs. Mais c'est vrai que c'est vraiment des moments hyper intéressants.
Privilégiés, je dirais même.
Et là, je me permets de faire un peu de pub parce que je pense qu'il y aura d'autres événements. Peut-être le prochain. Quel sera le prochain événement? Pas encore décidé.
Pour l'instant, c'est pas encore défini. D'accord. Mais on a une idée assez précise de la prochaine personne qui souhaite inviter.
Donc, quelqu'un d'assez intéressant, je pense, pour éventuellement drainer les foules.
Quelqu'un avec un accent allemand assez fort et qui a une réputation assez festive.
D'accord, très bien. Donc, à vous de deviner de qui il s'agit. Réputation assez festive. Peut-être Peter Reichert, non?
Qui aime bien la soupe de quoi?
Ah oui, d'accord, ok. On a tous trouvé, ok. Mais c'est vrai que c'est des moments, moi j'incite tout le monde à y aller parce que justement, il y a un cadre un petit peu convivial et on peut poser des questions.
Une liberté de ton des invités assez surprenante.
C'est-à-dire qu'on a des infos, des révélations, des anecdotes qu'on n'a pas par ailleurs. Donc vraiment important. Ouais.
Pour en revenir à l'histoire, Philippe en parlait avant, il y a une belle initiative que vous avez fait, que le club, je ne sais pas si ça se faisait en interne, mais vous remettiez à chaque cas joueur, en tout cas vous l'avez fait, je ne sais pas si vous l'avez fait cette année, l'histoire du Racing en quelques pages pour les sensibiliser, pour leur dire que ce club a une histoire, qu'ils font partie de cette histoire leur expliquer que eux continuent cette histoire finalement. Parlez-nous-en un petit peu.
Oui, c'est quelque chose qui existe toujours, on le fait en chaque début de saison. L'idée c'est en fait d'expliquer aux joueurs qui arrivent dans le club que ils vont porter un maillot qui n'est pas n'importe quel maillot, c'est le maillot du Racing, un maillot dont nous on est fiers et que eux peuvent aussi porter fièrement. Donc l'idée c'est effectivement les faire venir au local en début de saison pour leur remettre ce livret qui retrace en quelques pages effectivement l'histoire du Racing et qu'ils partent avec ce livret. Alors après on n'est pas dupes, on sait très bien qu'ils vont pas le lire tous les soirs avant de se coucher et avant de s'endormir, mais l'idée c'est de...
S'ils le lisent une fois, c'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal, oui.
Et joueurs et dirigeants d'ailleurs.
Voilà, c'est de leur donner simplement une idée du club dans lequel ils tombent.
D'où est-ce qu'ils mettent les pieds, voilà.
C'est ça. Et
Jafari Lali n'a pas eu le livret, apparemment. Hein. Mais... il savait pas où il tombait.
Je sais pas. Ça, il faudra demander si ça a été distribué. Lui faisait des copies d'écran avec des hélicoptères.
Ouais.
Et à noter que ce livret est téléchargeable sur le site de la Fédé pour ceux qui voudraient y jeter un œil et découvrir le document en question. Quoi.
Les supporters ont le droit aussi de s'instruire si. Les nouveaux supporters, je sais pas.
Et puis même, ça rappelle des bons moments. Donc
voilà, c'est
toujours
vrai.
Agréable à lire et à relire.
Ah, parce qu'on y trouve tous les grandes victoires du Racing aussi, bien illustrées. Voilà, bien illustrées avec les caricatures aussi.
Quelques témoignages de supporters sur des matchs clés. Enfin bon, voilà quelques.
C'est très sympa. Donc peut-être rappeler l'adresse du site internet, tout simplement.
fsrcs.fr.
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc si vous voulez.
fsrcs.fr.
Merci
Paolo. Plus rapidement, enfin plus lentement pour.
On mettra le lien sur la page Facebook de Planète Racing.
Moi j'ai une question pour Philippe par rapport à ce qu'il disait avant pour rebondir un petit peu. Moi ce qui m'a frappé dans ce que tu dis c'est la mission de la FED ce serait finalement de créer la culture club, de renforcer la culture club parce que les dirigeants ne le font pas en gros quoi. Mais justement pourquoi les dirigeants ne le font pas? Pourquoi est-ce que finalement le club qui a des moyens, qui a un potentiel, je sais pas, Marc Keller c'est quand même un ancien joueur du Racing, c'est comme quelqu'un qui connaît le club, qui a voyagé, qui a joué en Allemagne, qui a joué en Angleterre, qui a joué en équipe de France. Pourquoi alors je parle de Marc Keller, mais je parle avant peut-être
d'autres. Personne ne l'a jamais fait.
Personne ne l'a jamais fait effectivement, mais pourquoi justement personne ne l'a jamais fait. Pourquoi finalement c'est les supporters eux-mêmes avec des moyens quand même assez modestes qui sont obligés de bricoler avec trois bouts de ficelle des choses vraiment intéressante, vraiment passionnante, vraiment splendide, si on peut dire. Mais pourquoi les dirigeants ne le font pas finalement? C'est quand même eux qui ont les clés de la maison, quoi.
Bah, je pense qu'enfin, pour ce qui concerne le Racing, c'est tout simple. Les dirigeants qui se sont succédés ces dernières années n'avaient pas simplement pas envie, quoi.
C'était un manque de culture club.
Ouais.
Ouais. Il y a des camions entiers de livrets qui a été distribué, mais ça a pas marché.
Non, ouais. Mais enfin, il y a quand même une époque où les dirigeants du club balançaient des coupes dans la poubelle, donc on va pas leur demander à eux de.
Donc ça, c'était sous Troisy, voilà.
Donc voilà, c'est tout simplement les dirigeants qu'on a eus n'étaient pas du tout.
On a quand même eu entre 2003 et 2006, on a eu Guindorf.
Bah quand Guindorf,
c'est qu'il n'y a pas eu que des Proisy, des Hilali quoi.
Quand Guindorf il fait une soupe de pois, pour moi quelque part il participe à la culture club parce qu'il crée un événement convivial qui devient tradition et donc voilà certaines choses ont été faites. Alors, effectivement peut-être pas à la hauteur de ce que nous on peut attendre parce que bon bah voilà on est peut-être particulièrement passionné, particulièrement intéressé par l'histoire du club, mais on peut pas dire non plus que rien n'a jamais été fait. Mais c'est vrai que c'est jamais un qui a eu la dimension qui mériterait.
Ouais, comme une association d'anciens joueurs, par exemple, ou un...
Qui existe officieusement, cette association. Ouais, c'est Joël Tanter, le président, il me semble.
Voilà, ouais,
Martin Gitou avait aussi pris la présidence sous
Hilali,
avec Hervé Sec, qui avait essayé de relancer cette initiative. Mais bon, ça a été un coup d'épée dans l'eau, puisque ça a débouché sur rien, concrètement. Quoi.
Moi, ce qui me marque toujours avec le Racing, c'est que je me dis, il n'y a quand même aucun joueur du Racing, et pourtant il y en a beaucoup qui sont passés, qui a fait son jubilé, par exemple, à la Méno. Moi, j'ai pas souvenir d'un joueur qui a fait son jubilé à la Méno. Partant de ça, tu dis quand même que pourtant il y en a beaucoup qui ont passé des années, ils auraient pu. Alors peut-être pas des assez grands joueurs pour faire un jubilé, mais voilà.
Marc Keller aurait pu, qui était
un sur Lucanti par exemple, il aurait pu.
Non mais le souci,
il est entraîneur maintenant, je crois.
Mauvais star.
Une culture club, ça s'installe à long terme. C'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain.
Tout à fait.
Et les dirigeants du Racing, ils se sont remplacés. Enfin, on a eu tellement de dirigeants qui se sont succédés que même s'ils avaient voulu instaurer une culture club, ça a été le cas d'Hervé Sec, mais il est resté 4 mois. Donc en 4 mois, tu peux rien faire.
Peut-être revenir là-dessus sur Hervé Sec, qui est un personnage que les auditeurs ne connaissent pas forcément. Il était directeur de la com sous Hilali Fontella. Brièvement, ouais. En quoi finalement un type qui arrive de nulle part, parce qu'il est arrivé de nulle part, était intéressant dans ce qu'il proposait, quoi. C'est assez marrant que parfois certains types qui arrivent de nulle part proposent des trucs intéressants qui sont pas repris par la suite par les gens du cru, quoi.
Bah, sûrement qu'il y avait un peu cette fibre d'animation. C'est vrai que ça rejoint un peu le commercial, la culture club, parce qu'une culture club bien animée, effectivement, ça permet de faire de la com sur le club. Donc, il avait sûrement un peu la fibre, sans être pourtant un supporter du Racing à la base. Il avait un peu le truc, quoi. Mais c'est vrai que pour revenir à ce que disait Philippe, je pense que le La principale raison de ce défaut de culture club, c'est l'instabilité chronique au club depuis 20 ans, hein, qui fait que tout est à recommencer tous les 6 mois, et bon, bah, une culture club, ça se construit, quoi.
Et puis la mentalité actuelle aussi du football, qui est pas comme la mentalité amateur, où après on va tous boire une bière autour d'une table, avec ben, les joueurs actuellement qui viennent plutôt prendre leur cachet comme Ibrahimovic.
Comment ça se passe justement avec les joueurs actuellement, avec le staff, avec les acteurs du club, peut-être pour parler des relations très actuelles, là, donc novembre 2012, avec Marc Keller, avec les joueurs, avec François Keller, avec je sais pas tous les acteurs du club. Est-ce que ça se passe bien, mal,
déjà,
moyen.
Je pense qu'il y a deux parties qu'il faut scinder. Il y a la partie le secteur sportif. Donc bah là les choses ont peu changé depuis l'année dernière. Les relations étaient très bonnes et elles le sont restées. C'est vrai que François Keller a toujours joué le jeu quand on le sollicitait ponctuellement pour une rencontre avec un joueur, pour une activité ou tout simplement bah, on l'a déjà reçu plusieurs fois au local et pour jouer le jeu des questions-réponses. Donc là ça se passe très bien. Sur la partie plus dirigeante, on repart encore une fois de zéro, hein, c'est ce qu'on disait sur la partie culture club.
Chaque année on recommence un peu.
Voilà, ouais. Donc on repart de zéro, oui et non, puisque les gens qui sont aujourd'hui à la tête du club l'ont déjà été. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un fonctionnement professionnel qui s'est mis à la tête d'un club amateur. Donc il y a beaucoup moins de volonté d'impliquer les supporters dans la vie du club, même tout simplement de communiquer. Et donc c'est vrai qu'on est sur une relation qui n'est pas mauvaise, mais qui est calme.
Décevante, quoi, faut le dire.
Décevante, oui et non. Est-ce que c'est plus décevant d'avoir quelqu'un qui fait son boulot peut-être de manière un peu plus froide, mais qui pose l'argent et qui assure l'avenir du club, que de quelqu'un de très expansif qui se barre sans payer à la fin, quoi?
Bien, t'as réussi à faire une grosse belle phrase sans donner de nom en plus.
Est-ce qu'il serait possible d'avoir quelqu'un une fois un jour qui paye et qui fait quelque chose derrière? Ce serait aussi envisageable, je sais pas.
Ça, on en rêve tous, mais bon, on choisit pas. Hein.
Ouais.
Et après, vous le disiez, 2 ans et demi de présidence. Allez, vous avez connu sur la première année de présidence 7 présidents, je pense, hein, entre Fournier, enfin ça changeait tous les mois. Luc Daillon,
j'avais oublié lui.
D'ailleurs, a gagné un procès là qui va réclamer de l'argent, je sais pas à qui, peut-être à Thomas Fritz.
Moi, je pense à personne.
J'espère pas pour lui.
Moi, je pense à personne. Ça a été,
d'accord,
ça a été liquidé. Ouais.
Ok.
Mais oui, comment ont évolué vos relations finalement avec le club? On pense à sous l'époque Ilali où finalement tous les supporters étaient d'accord pour le mettre dehors. Enfin sur cette période.
Finalement, c'est l'âge d'or de la Fédé, c'est tout le monde était d'accord.
C'est pas l'âge d'or de la Fédé, c'est la raison de la création de la Fédé, puisque les premières réunions c'était une volonté d'unir toutes les forces pour sauver le club, c'est-à-dire faire dégager Ilali. Et il en est sorti au final quelque chose de plus positif, c'est la Fédé, mais c'est vrai qu'en fait Ilali c'est l'origine de la Fédé quelque part, quoi. Donc après, effectivement, ça continue de se succéder. Quelque part, on a réussi à créer la Fédé, mais pas à sauver le club, puisqu'on s'est retrouvé en CFA2. Derrière, les relations repartent avec Citerlet, pour la saison qu'on a tous vécue l'an dernier et la conclusion qu'on sait. C'est vrai qu'aujourd'hui, il est peut-être aussi un peu tôt pour jeter la pierre aux dirigeants sur la communication, puisqu'ils sont arrivés avec 1 million à éponger, plus rien ni personne dans les bureaux. Ils ont fait face à une situation d'urgence une nouvelle fois, puisqu'on sait que les négociations pour le rachat du club ont quand même été compliquées et que ça s'est conclu tardivement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la démarche est autre, mais il est peut-être aussi un peu trop tôt pour vraiment tirer un jugement sur cette action.
Je rebondis sur ce que tu dis, justement. De l'argent à mettre, etc. Une machine à relancer, a priori, avec d'autres méthodes peut-être. Est-ce que ça justifie la situation actuelle de changer le blason du Racing? Parce qu'effectivement, le débat...
Parlons-en de ce blason.
Là, il y a un débat qui finalement propose deux réponses. La réponse, il fallait effectivement changer le blason parce que ça rapporte de l'argent via la région, via un accord entre le club et Richer et compagnie. Et il y a les contres qui disent finalement, la région peut soutenir le club, a le droit de le soutenir, il n'y a pas de souci, on peut trouver des manières d'afficher la marque Alsace quelque part et de l'associer au Racing de différentes façons, mais pas en dénaturant le blason, en le changeant en tout cas, et en ajoutant Alsace au nom du club. Quelle est la position de la Fédé par rapport au changement de blason et au changement de nom du RCS, qui n'est plus le RCS finalement officiellement, mais le RCSA?
Nous, on était très clairement contre. Hein. Déjà, ça c'est clair. On l'a fait savoir au club dès les premières rumeurs. On a écrit au président de région dès qu'on a su que ça se tramait. On a sollicité une réunion pour faire part de notre désaccord. On s'est retrouvé 2h30 un vendredi soir au club où ils essayaient de nous faire passer la pilule sans qu'on lâche le morceau. Après, c'est vrai que pour nous, c'est un point non discutable et non négociable. Notre position, c'est qu'on était prêt à faire une concession sur le remplacement du football par Alsace. Ça nous paraissait un moindre mal, ça dénaturait pas le cœur du logo. Par contre, effectivement, sur le fait de toucher à la partie, ce qu'on appelle nous le RCS en croix, c'est vraiment la partie centrale du logo, on était clairement contre. On a essayé de faire tout un tas de propositions pour essayer d'être constructif et pas aller juste aller dans le choc frontal de non, on veut pas. Donc on avait proposé de faire un affichage du Alsace en grand sous le maillot, essayer peut-être de faire de l'animation au stade, c'est-à-dire qu'on entrait par là, on était prêt, on avait proposé d'organiser tous les ans une journée de l'Alsace à la Méno où les animations, le tifo seraient tournés vers la région pour permettre de mettre notre région en valeur, puisque on n'est pas contre l'Alsace non plus, hein, c'est pas ce qu'il faut comprendre.
Mais avant le match, tu peux valoriser l'Alsace de tas de façons, avec des tartes flambées, avec des groupes, etc.
Comme ça se faisait l'année dernière.
Des tas de façons de valoriser l'Alsace avant le match, ouais.
Donc on a essayé d'être constructif. Bon, mais en fait, c'est vrai qu'on était à une fausse discussion. On a essayé de nous faire croire qu'on nous sollicitait, mais en fait,
on vous a mis au pied du mur, quoi.
Ouais, ils ont essayé de le faire élégamment. Mais concrètement, d'accord, on nous annonçait une décision, on nous demandait pas notre avis, quoi.
Alors, tu parles du blason, hein, du cœur du blason avec ce RCS, avec une typo assez particulière transformée en RCSA. Mais il y a aussi le nom du club finalement, qui est le prélude au changement de blason ou l'inverse, peu importe. Mais est-ce que, moi je pose la question à Philippe et à Greg, est-ce que ça vous gêne pas maintenant d'entendre dans les médias, à la radio, dans les journaux, parler de RCSA avec ce A qu'on ajoute comme ça et plus de RCS tout court? Moi, ça me gêne profondément. Personnellement, je trouve que c'est comme si on t'ajoutait un troisième ou un quatrième prénom comme ça à 25 ans ou à 26 ans ou à 30 ans ou à 35 ans. Sauf que le Racing a 100 ans et quelques, voilà. C'est pas un problème, ça?
Moi, personnellement, j'étais pas particulièrement choqué par ça. Et d'autant plus que j'ai toujours considéré que les gens parleraient du Racing et pas du RCSA. D'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que ce matin, une demi-page dans l'équipe consacrée au Racing, et pas une seule fois dans l'article, on dit RCSA. Donc,
par contre, c'est l'Alsace et le DNA qui font du prosélytisme.
Le journaliste parlait du Racing Club de Strasbourg, il n'a jamais parlé du RCSA. D'accord. Et donc, c'est gênant. La méthode est gênante, mais le fait d'associer l'Alsace au Racing, c'est pas gênant. Parce que
mais ça, j'ai pas dit ça. Bah, tu peux faire différemment, c'est tout.
Mais tout à fait. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Greg. On a essayé de proposer au club. Voilà, ils ont simplement refusé. Et on a été mis dans le fait accompli.
Après, faut pas oublier, ce logo, on a failli le perdre aussi. Hein. Il y a deux mois, si Terlé voulait pas le donner, on a failli s'appeler Football Club de Strasbourg.
Parce qu'il était déjà arrivé en 2000 ou 2001 sous Proissy, hein, puisqu'on a joué une saison sans même le terme Racing. Hein. C'est vrai qu'à l'époque, ça dérangeait personne, parce que justement, il y avait moins ce côté militant et revendicatif de l'histoire du club. Mais on s'était appelé le Strasbourg Football.
Mais dans les médias, personne ne parlait du Strasbourg Football 1906.
Mais alors que personne ne parlera non plus du RCSA, parce qu'aujourd'hui,
actuellement, dans les médias, aujourd'hui, ça me sidère, parce que pensais effectivement que c'était les médias RCS, et maintenant c'est RCSA.
Mais non, c'est pas RCSA, c'est pour les médias locaux, c'est juste l'occasion d'aller un peu dans le sens du club, et puis dans un an ou deux, tout le monde aura oublié cette
signature. Et tout le monde parlera que du Racing, terminé.
Et puis, ce qu'il faut aussi bien savoir, c'est que tous les dirigeants qui se sont succédés, à un moment donné, on pensait changer le logo. C'est aussi le cas de Frédéric Citerlé. Il y a un an, il voulait changer le logo, Frédéric Citerlé.
Il a fait marche arrière parce qu'on a mis la pression.
Comme il pouvait pas se permettre d'avoir les supporters à dos, il a reculé. Le problème cette année, c'est
ça,
que...
Ça, c'est une info quand même, hein, pour ceux qui le savaient pas.
C'est que Marc Keller, il avait...
Il s'en fout, quoi.
Non, c'est pas ça, mais le groupe de pression, c'était plus nous, c'était la région. Donc, le rapport de force a changé.
Et puis, faut pas oublier que c'est Marc Keller qui avait rétabli, le logo qui est plus actuel.
C'est faux, là. C'est
Ginesté. Autant pour moi.
Justement.
Là, je me suis fait... ils sont trois contre un.
Marc Keller, pendant trois ans,
a toujours fait la sourde oreille à notre demande de retour du logo.
Revenons en 2003-2006. Il a fallu attendre l'arrivée de Ginesté, pour que le blason, le vrai blason, soit de retour.
Pac-Man Factory. Justement, on va continuer à parler de ce blason, puisque pendant qu'il y a eu ces discussions, en même temps, vous étiez sur le parvis de la Méno, en train de confectionner peut-être l'un des plus grands ou le plus grand logo de club de France.
Antifo,
Voilà, Antifo, qui a été monté lors du premier match, je sais plus contre qui.
J'ai rassuré, il me semble.
Voilà, genre en tribune nord, qui était déplacé
après. C'était pas le premier match, c'était un peu plus tard.
En tribune est. Si je me trompe, le dernier match, il n'était même pas sorti. Ouais, alors
si, il était toujours au bas de la tribune, mais il y a quelques soucis techniques pour le maintenir en place. Mais il devrait faire son retour.
D'accord, voilà. Parce que moi, je me suis dit, on va l'oublier. Il restera enroulé et puis on le reverra plus jamais. En tout cas, voilà, c'était difficile aussi à ce moment-là. Vous étiez en train de faire le plus gros logo sur le logo, on va dire, historique avec le football et pas le A de RCS. Et en même temps, boum, on change de nom.
On le savait, hein, c'était une action militante en fait. Hein.
D'accord.
C'était pas. On savait que. On l'avait même un peu mis dans la balance. On savait que le changement de logo se tramait. Donc, tout en préparant l'animation, on avait annoncé au club que si on trouvait une solution. Sur le Alsace, ben et uniquement le Alsace, ça pourrait figurer sur l'animation pour la saison, et que si le cœur du logo était massacré, ben on irait sur l'historique et que la revendication commencerait par cette action-là, en fait.
Donc il sera remis, voilà. Bon, c'est vrai qu'après de loin, on voit le rouge et le bleu, ça va, ça se voit pas trop encore, hein, mais bon. C'est vrai que ça fait parler en tout cas, ça fait parler. Hein,
mais question toute bête aussi pour les gens qui nous écoutent et qui finalement ne s'imaginent pas forcément l'importance qu'un blason de club ça peut avoir. J'ai lu des commentaires de gens qui disaient que finalement, bon, si la région file de la thune, ça justifie le changement, ça justifie tout quelque part. Quelle est l'importance d'un blason de club, du blason du Racing, le blason officiel, enfin le blason historique, blason pour le supporter acharné du Racing, c'est quoi le
blason,
c'est quoi qui est si important?
Le blason, c'est ce qui restait quand on jouait sans dirigeant national, c'est ce qui restait au cœur de l'été quand on savait pas si on repartirait en CFA2 ou en DH ou pas du tout. Voilà, le blason, c'est pas un truc qu'on change pour un partenariat de 3 ans, quoi. C'est, en fait, c'est ça qui est ridicule et que les gens ne perçoivent pas forcément s'ils suivent le club de plus loin. Mais voilà, c'est vraiment un fondamental, le blason. Et donc, qu'est-ce qu'on fait si la région ne paye plus dans 3 ans et que c'est le département qui prend la suite? On appelle Racing Club de Strasbourg Barin, on vire le A et on s'appelle RCSBR. Ou peut-être les deux, RCS, BR, 67, CUS, non mais c'est vrai, voilà, je le tourne un peu en dérision, mais c'est ça, on peut se poser la question, quoi. Si c'est 300 000 aussi, chacun dans 2 ans, on change.
Je me fais l'avocat du diable, mais il y a aussi les gens qui disent, mais regardez, en Ligue 1, il y a FC Lorient Bretagne Sud, il y a Troyes Aube Champagne, il y a
Nantes-Atlantique, Nice,
voilà, qu'est-ce que finalement,
à la limite, ça nous dérangeait pas foncièrement de rajouter Alsace derrière, parce que ça restait le Racing, et puis que ça se faisait pas changer. Et nous, vraiment, ce qui nous dérange, c'est d'avoir fait évoluer le logo, quoi.
D'accord. Donc c'est vraiment le blason et pas tellement le nom. Moi je suis pas trop d'accord. Je pense que le nom est très important aussi, mais on va pas rentrer.
Peut-être
clore là-dessus.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Clore là-dessus.
Tu prépares une connerie, nouveau?
Non. Passer sur les actions de la Fédé. On se souvient de ce match que vous avez organisé pour fêter les 60 ans de la victoire en Coupe de France 51. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, parce que c'est votre plus grosse action sur les deux ans et demi d'existence?
Ben, c'est vrai que en 2011, on fêtait les 60 ans du premier titre du Racing. C'était un moment difficile pour tout le monde parce qu'on était en national, on savait pas exactement ce qu'allait devenir du club. Donc il nous paraissait important, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure, de valoriser l'histoire du club. Et donc le fait de se retrouver un dimanche à faire un tournoi de foot, à faire un barbecue, à faire venir d'anciens joueurs et d'anciens dirigeants du club, ça nous paraissait important pour valoriser justement le club et aussi pour en parler en bien, parce qu'à cette époque-là, on parlait pas beaucoup en bien du Racing. Donc là, c'était une journée qui était consacré au bon côté du club, et on a effectivement essayé de réunir le maximum de monde. On a fait venir effectivement ce jour-là, ben, il y avait Roland Véler, Jacques Duquet Pérou, Stéphane Collet, qui avait fait 1000 km pour venir à Strasbourg. Donc c'était l'occasion, ben, tout simplement de réunir tous les amoureux du club et de passer un bon moment ensemble.
Et puis on en avait bien besoin à ce moment-là.
Avec 500 ou 600 spectateurs finalement qui étaient venus sans com particulière en plus, donc c'était vraiment un succès de ce point de vue-là.
Ben, surtout que ça a été organisé sans le club, hein. C'est vraiment la difficulté de l'exercice, c'est que voilà, contacter, on avait quoi, une liste de 200-300 anciens joueurs et dirigeants. Oui, bonjour, on est NASOS, on a un an et on organise un match de gala pour les 60 ans du titre.
Souligner tout le boulot derrière ce genre d'événement, les personnes à contacter, ça prend un temps fou. Question toute bête, là, vous qui êtes sans doute employé, salarié, ou enfin vous travaillez sans doute, je pense. Quelle place
Comme dirait Anto, chauffagiste, plombier.
Non, mais peu importe. Hein, bon, mais quelle place finalement la gestion de la Fédé, parce que vous êtes bon président Philippe et toi, je sais pas, vice-président, voilà, donc président et vice-président. Quelle place, combien de temps ça prend par jour, par semaine?
Ça dépend des périodes. Au cœur de la crise l'an dernier, quand on s'inquiétait un petit peu de ce qu'allait faire Frédéric Citerlet, c'était tous les jours. Après, en ce moment, c'est un peu plus calme. Heureusement d'ailleurs, parce que je pense que si c'était tous les jours, on n'aurait plus à suivre. Mais il y a des périodes effectivement qui sont très marquantes. On parlait du match de gala, ça a été un travail de 8 mois quasi quotidien, quoi. Parce qu'on est parti de zéro, on n'avait rien, donc il fallait tout construire.
Surtout sans appui, comme a dit Paolo avant.
Il fallait un stade, il fallait des maillots,
des sponsors, il fallait.
Ouais, il fallait tout en fait. Hein, donc, pour te répondre aussi, c'est vrai que l'avantage de la Fédé, c'est que on n'est pas forcément calqué sur le rythme du Racing. Donc effectivement, on est très sollicité quand ça va mal au club, parce qu'on essaye d'influer toujours dans la bonne direction. Par contre, sur ce côté vie associative, événementielle, eh ben on peut un peu donner le rythme qu'on veut, puisqu'on n'est pas lié au match, on n'est pas lié au calendrier. Donc c'est vrai que ça permet, quand la motivation est là, on essaie d'organiser un maximum de choses. Cet été, pendant 6 semaines, on n'a pas ouvert le local, on a débraillé, on a passé des bonnes vacances, on est revenu motivé à la rentrée, et puis ça va aussi, quoi.
Et actuellement, tout va bien, c'est reparti. Quel est l'état des troupes, en quelque sorte? Est-ce que c'est toujours...
Normale aussi, maintenant? Est-ce qu'on peut appeler ça une saison normale?
On en parlait aussi brièvement avec Frédéric, là, avant que l'émission commence. Il y a un gros paradoxe cette année, c'est qu'il y a plus de monde au stade, et vraiment plus de monde, puisque les chiffres sont plus hauts, et en plus les chiffres sont justes, alors que l'année dernière, les chiffres étaient quand même un peu manipulés. Et
par qui?
Il y avait les places gratuites. Il y avait le x2 en fait.
D'accord. Donc c'est vrai que cette année il y a vraiment plus de monde et pour parler plus particulièrement des deux associations membres, le COP s'est lui vidé. Et ça c'est un phénomène que moi en 20 ans de Racing j'avais jamais connu. Il y a plus de gens au stade et moins dans le virage. Et c'est vrai que ça traduit un peu le début de saison est vraiment difficile au niveau associatif.
Comment l'expliquer?
Et ben on en a beaucoup parlé.
Résultat des réflexions.
Il y a assez peu de pistes. Moi, à titre personnel, la seule explication que j'ai, c'est que le grand public, il suit le Racing depuis beaucoup plus loin, depuis 4-5 ans. Parce qu'au Racing, ça va mal. Au Racing, c'est la crise. Et puis que quand la crise devient perpétuelle, on va voir le match, on n'y va pas. Et puis on regarde le résumé dans les DN et tout va bien. Alors qu'au niveau des associations, on vit le Racing au quotidien. On est beaucoup plus impliqué. Et que cette énième dérobade de fin de saison dernière, alors qu'on nous avait impliqué dans le projet, qu'on nous avait sollicité, je pense qu'elle a laissé beaucoup plus de traces qu'auprès du grand public. Et que ça explique, là, que, on a, au niveau associatif, c'est beaucoup plus dur de repartir cette saison.
C'est un contre-coup, quoi, véritable contre-coup, peut-être aussi psychologiquement, la fatigue aussi, qui a, depuis 2-3 ans, s'est accumulée.
Donc c'est, les gens n'ont pas apprécié, on va dire que, pour résumer, les militants les plus fervents, les gens du quart de virage n'ont pas apprécié, le nouveau bordel au Racing, en plus en CFA2, tandis que les gens du grand public ont été moins impliqués là-dedans et ont plutôt retenu la montée en 4e division, quoi, la promotion.
C'est vrai que j'ai parlé du quart de virage parce que les deux associations membres y prennent place, mais même nous au niveau de la Fédé où les gens prennent place dans l'ensemble du stade, là sur les premières visites qu'on a voulu organiser cette année, les affluences ont été beaucoup plus faibles que l'année dernière. On se rend compte que la mobilisation est plus difficile.
Parce que c'est pas dû justement au manque de soutien du club qui, alors moi il y a un exemple que je peux citer, enfin dont j'ai eu connaissance, c'est le programme d'avant-match que vous aviez proposé au club, vous aviez proposé de vous en occuper, de rédiger un programme d'avant-match, et finalement le club a dit non, on veut garder la main mise sur cet aspect de la communication et finalement proposer un programme produit par le club qui, soit dit en passant, n'est pas d'excellente facture. Hein. Est-ce que c'est pas aussi un problème et les gens qui sont avec vous ne ressentent pas finalement un club plus froid, comme tu disais avant.
Le besoin du club par rapport aux associations, tu veux dire,
plus froid par rapport à la culture, la nécessité de développer la culture club. Est-ce que c'est pas ça quelque part qui est perçu par les membres les plus fervents de la Fédé?
Pour parler du programme d'avant-match, je suis pas tout à fait d'accord parce qu'effectivement, c'est l'année dernière, il n'y avait plus de programme d'avant-match. Donc nous, notre idée, c'était de relancer ce concept-là.
Ouais.
Le club nous a pas dit qu'il ne voulait pas. Le club nous a dit qu'il souhaitait s'en occuper. Et c'est cohérent parce qu'effectivement, que le club souhaite garder la main mise sur leur communication. Après, on peut critiquer la communication et considérer qu'elle n'est pas bonne, mais ça me paraissait logique. Nous, on souhaitait simplement que le programme d'avant-match soit relancé. Donc il a été relancé. Après, on peut juger.
Est-ce qu'il vous satisfait concrètement?
Non, voilà. Il n'est pas bon, évidemment. Mais
on a compris que tu l'aimais pas.
Si tu veux, c'est plus.
Non, mais il y a pas que moi. Il y a Philippe aussi.
Bien sûr qu'il n'est pas bon, mais notre idée, c'est de le relancer. Donc, ils l'ont fait eux-mêmes. Après, effectivement, ils pourraient faire mieux. Maintenant, pour moi, c'est pas ça le problème. Le problème, effectivement, c'est ce qu'a dit Greg, c'est que l'année dernière, on a tous énormément cru au projet de Frédéric Citerlé et qu'on a tous été énormément déçus.
Et beaucoup sollicité à un moment donné, peut-être, et beaucoup moins maintenant. Tout simplement.
Après, moi, par rapport à ça, justement, c'est ce que je voulais ajouter, c'est que c'est, on a peut-être un club un peu plus froid, mais aussi peut-être un peu mieux géré.
Pour, un club peut-être plus normal en fait.
Terme, voilà. Et c'est vrai que ça a peut-être sollicité beaucoup d'espoir et beaucoup d'envie que toutes les portes nous soient ouvertes l'année dernière. Enfin, quand je dis nous, c'est les supporters au sens large, hein, pas particulièrement la Fédé. Mais est-ce que c'était vraiment sain, quoi? Est-ce que toutes ces initiatives, alors toutes ces initiatives qui se sont multipliées, bah, ça a permis au club de continuer à vivre, ça a permis d'entretenir la flamme autour du Racing. Mais bon, quand on souhaite un club qui remonte les échelons chaque année, ça doit pas non plus, c'est pas là que ça doit se passer, quoi. Donc je pense que quelque part, le retour sur terre est un peu difficile, mais il était inévitable à un moment.
C'est que la flamme, elle vit.
Voilà.
Tout simplement.
Et il y a un truc qui me fait un peu tiquer dans ce que tu dis. Qu'est-ce que tu en sais finalement? Est-ce que le club est si bien géré que ça? Si dans un an, parce que finalement on a rien vu venir, enfin hein, vous avez rien vu venir par rapport à ce qui s'est produit il y a quelques mois, qu'est-ce qui te fait dire que le club est si bien géré? Et si maintenant, mettons hypothèse, hein, dans quelques mois, fin de saison, le club ne monte pas, il y a des soucis financiers, Marc Keller ne sait pas comment boucler la saison, il y a vraiment des soucis de ce côté-là. C'est aussi une hypothèse à envisager. Qu'est-ce qui fait que finalement, a priori, c'est tellement bien maintenant, quoi?
Bah déjà, j'ai pas dit que c'était tellement bien. Déjà, pour commencer, j'ai dit que c'était mieux. Voilà. On peut imaginer que ça sera difficilement pire qu'un mec qui s'enfuit à la fin sans payer, quoi.
Non, pire.
Déjà, donc au pire, ça sera pareil, déjà.
Voilà.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à un pool d'actionnaires alsaciens. Donc moi, c'est vrai, à titre perso, c'est jamais une formule qui m'a fait rêver, parce que
c'est vrai qu'à l'époque avec Fontaine, voilà, là, c'était très critiqué par justement les supporters.
Mais à côté de ça,
que ça marcherait jamais, quoi.
On a des institutionnels locaux, des gens qui sont présents en Alsace, qui ont des commerces en Alsace, des affaires en Alsace. Ils vont pas s'enfuir en courant à la fin de la saison, quoi. Donc on montera peut-être pas, il y aura peut-être des difficultés. Alors déjà, si on monte pas, ça sera pas forcément un défaut de gestion, hein. Et moi, je pense que ce côté bon petit père de famille avec une ambition moyenne dans la com, avec un peu, de toute façon on a connu une première période Keller, et c'est vrai que là on a retrouvé la même gestion. Voilà, il y a quand même une volonté de maîtriser les dépenses, une volonté d'assainir, et si tout n'a pas marché à l'époque, ça il avait su le faire. Il est arrivé, on était en deuxième division, on avait un passif de plusieurs millions d'euros, et en 2005 on gagne la Coupe de la Ligue, on est bénéficiaire. Donc peut-être que derrière ils savent pas gérer le succès, et que bah tout se réécroule, mais c'est vrai.
Quel intérêt justement s'il y a un succès et que derrière ça s'écroule, a priori, quel est l'intérêt?
Bah l'intérêt c'est qu'aujourd'hui on est en CFA et qu'avant que ça s'écroule on sera peut-être au moins en Ligue 2, quoi, et ça s'écroulera peut-être pas avec la même force non plus. Donc aujourd'hui moi je pense qu'on a des gens qui ont su quand même prouver qu'ils étaient capables de gérer financièrement parlant sainement le club, et aujourd'hui bah c'est déjà énorme par rapport aux 2-3 dernières saisons, quoi.
Et puis on connaît la fortune de chacun, que ce soit Sébastien Loeb, Marc Keller. Autant citer Arlé, on avait des Egon Gigdorf, autant citer Arlé, on avait des doutes sur sa fortune, on ne savait pas l'estimer. Autant eux, on peut l'estimer a fortiori. Ce qu'a mis Marc Keller, là, 200 000 euros, c'est à peu près ce qui touche à Canal Plus sur, allez, 4-5
saisons. T'es bien informé sur les comptes de Marc Keller.
Non, mais c'est à peu près ça. Enfin, ils ont des bonnes rémunérations, que ce soit sur Canal Plus ou ailleurs. Et au moins, ben, 200 000 euros de les remettre à la fin de la saison, si jamais on monte pas, ils pourront tous les mettre, que ce soit Christophe Rem, Sébastien Loeb, Marc Keller ou d'autres, quoi.
Peut-être évoquer un petit peu le côté sportif, le niveau sportif de l'équipe. Quel est votre regard là? Donc là, on est après 9 journées hein, de championnat. Est-ce que cette équipe, alors que ce soit d'un point de vue footballistique ou d'un point de vue de la mentalité, est-ce que ça vous satisfait ce que vous voyez sur le terrain? Parce que c'est vrai qu'on parle des à côté, mais on est aussi des passionnés de foot, de racing, d'un point de vue du terrain. Est-ce que ce que vous voyez, ça vous comble?
Bah moi, à titre personnel, j'apprécie l'état d'esprit de cette équipe, dans le sens que le groupe m'a l'air sain, que voilà, les joueurs sont, enfin contrairement à ce qu'on a pu connaître les 10 dernières années, les joueurs sont respectueux, les joueurs. Voilà, on sent, enfin, ils sont un peu à l'image de leur coach, en fait, hein. C'est ce que j'ai envie de dire. Ils sont impliqués, travailleurs et sérieux. Par contre, sur le terrain, moi, pour l'instant, je suis très déçu, ouais, clairement, parce que, on se fait marcher dessus à Moulins, on s'est même bougé par Alfortville à la Méno, on est nul à Chasselet et on n'arrive pas à se révolter. Et j'ai du mal à me l'expliquer parce qu'on a quand même des joueurs,
oui,
une partie
voilà.
De l'effectif qui pointe entre la Ligue 2 et le National.
Hein, c'est la même question que je me pose. Pourquoi cette équipe qui a un CV global niveau National Plus se fait marcher sur la gueule par des équipes de CFA niveau moins plutôt, quoi. Genre Chasselet, genre Moulins, genre d'autres, quoi.
Et ben,
comment ça se fait?
Bonne question, j'en sais rien, alors, mais c'est très inquiétant. En
tout alors cas. Je lance un pavé dans la mare peut-être, mais est-ce que c'est pas un problème d'entraîneur? Est-ce que François Keller est l'homme de la situation? Est-ce qu'il a la compétence tout simplement pour gérer l'équipe 1 du Racing?
Je crois que tu rentres dans un faux débat tout simplement, puisque on le voit des fois en Coupe de France, ben des équipes de Ligue 1 perdent dans des équipes de CFA. Là, François Keller le disait.
Non, j'ai juste envie d'avoir votre avis. Après,
François Keller ou Laurent Fournier ou d'autres le disaient, l'équipe du Racing a attendu à chaque match au tournant pour quand tu vas à Chasselet dans un terrain qui est au milieu des champs. Ouais, c'est le match de l'année.
Est-ce que ça justifie
pas tout gagner non plus? C'est le match de l'année. Après, est-ce que ça
sur un contre parce que tu domines la rencontre, ok, mais tu fasses un match pourri et que finalement
ça arrive
à chaque match quasiment.
On peut être mauvais sans se faire marcher dessus quoi.
Après on parle avec
on a tendance à se faire marcher dessus quoi. Moi c'est ça qui m'inquiète et qui m'énerve plus, c'est qu'on se fait marcher dessus quoi. Et est-ce que ça c'est vraiment lié au coach que les joueurs se fassent marcher dessus quoi? Donc il y a peut-être des défauts. Enfin moi je me sens pas franchement je me sens pas capable de juger du niveau d'un coach, je suis pas dans le vestiaire toute la semaine, je connais pas le comportement des joueurs à l'entraînement, je connais pas leurs limites et leurs pépins physiques. Donc moi aujourd'hui sur François Keller, honnêtement, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'apprécie le personnage et que comparé à tous les cons qui sont pas sur Racing depuis 20 ans, c'est déjà beaucoup.
Et c'est donc c'est celui qui dure le plus.
Le personnage, je parle de compétences techniques. Voilà, mais ça, c'est pas le personnage. Moi,
le personnage, je me sens capable de le juger. Les compétences techniques, non. Donc en fait, je peux juste pas te répondre. Mais c'est vrai que de ce que j'en observe, c'est un gagnant. Il est fou furieux quand ses joueurs se font marcher dessus, mais ses joueurs, eux, ne sont pas fou furieux quand ils se font marcher dessus. Et aujourd'hui, ça, ouais, on l'a dit, c'est inquiétant, mais je comprends pas ce qui manque. Mais en tout cas, j'ai pas l'impression que sur le côté état d'esprit, parce qu'effectivement, la tactique, ça se discute. L'état d'esprit, c'est un peu plus facile à analyser et à observer. J'ai pas l'impression que ce soit le coach qui a un défaut d'état d'esprit et de combativité, en tout cas.
On va peut-être parler du déplacement.
Juste pour finir, après, les joueurs le disaient aussi, c'est plus motivant de jouer le haut de tableau des équipes. Hein, je pense la Duchère, là, tu verras une vraie révolte, ou Nancy 2, où on était au fond du trou, que de jouer à Chasselet au milieu des champs devant 150 personnes.
Au tableau, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, l'an dernier, il y a aussi un paquet de matchs où on n'a pas été bon. Alors que dans les gros matchs,
oui, c'est le prolongement de l'an dernier finalement.
Oui, mais justement, dans les gros matchs, on a toujours répondu présent. Donc là, on va jouer Mulhouse dans 10 jours, on joue La Duchère dans un mois et demi. Voilà, ça va être des matchs où on va effectivement voir si le club répond présent et si l'équipe est là.
Et justement, c'est la bonne transition pour Mulhouse, parce qu'on va peut-être en parler, vu que
le seul bon match à l'extérieur, ça a été Villefranche, et effectivement, c'est Villefranche qui était dans le haut tableau et pas Chasselet, quoi. Donc, bon. Bon, quoique Moulin, le plus mauvais match, ils étaient deuxième.
Allez, on va parler de ce déplacement également. On a donné quelques brides de ce déplacement à Mulhouse. Ça sera la semaine prochaine, samedi prochain. Le Racing qui ira défier l'historique club de Mulhouse sur ses terres. Parler peut-être concrètement de ce qu'a prévu la Fédé, tout simplement, pour ce déplacement, ce retour du Racing sur les terres mulhousiennes.
Bon, on avait prévu un déplacement en bus. Ça fait maintenant un peu plus d'un an qu'on organise régulièrement des déplacements en bus. On a fait une dizaine en un an. Donc là, forcément, on avait prévu un déplacement à Mulhouse. Le bus était déjà quasiment plein. En tout cas, il aurait été plein. Et puis, donc, suite à une réunion avec le club il y a une semaine, qui nous a annoncé sa volonté de relancer le train bleu. Donc, le train bleu, c'est ce train qui traverse toute l'Alsace. Pour rassembler les supporters et encourager le Racing. Donc suite à cette volonté du club de relancer ce train bleu, eh bien on a décidé d'annuler notre bus et d'inviter tous les supporters, ceux qui étaient évidemment inscrits dans notre bus, mais aussi tous les supporters de façon générale, à prendre place dans ce train et aller tous ensemble à Mulhouse pour vivre ce moment qui va forcément être un moment fort puisque c'est un derby et puis c'est un match important pour le Racing.
On a des infos supplémentaires sur ce train, on sait déjà un petit peu les horaires ou tout ça, on sait un peu où, alors peut-être quand vont tomber les modalités parce que c'est dans 10
jours
quoi.
En fait, on attend confirmation du club, là qui tarde un peu à communiquer mais qui attend a priori des dernières confirmations de la SNCF, mais ce qui est pour l'instant prévu c'est un départ 14h30 de la récrimerie, donc à la Méno.
Ah ouais, directement.
Voilà, donc ça c'est déjà un premier côté sympa. A priori un unique arrêt sur le chemin à Colmar, et tout ça pour un prix train plus place de stade à 20€.
Voilà. Ce qui est sympa quand même. Aller-retour aussi, parce qu'on nous a posé la question. Aller-retour.
Et normalement, le club tiendra un guichet dédié au déplacement au match de samedi. Il y aura aussi moyen de se procurer les places pour les membres d'Assos au local d'Ultra et au local de la Fédé après le match. Et deux permanences seront assurées entre midi et deux, il me semble, et en tout cas sur un 16-19, quelque chose comme ça, dans la semaine.
Au club.
au club. Donc voilà, donc les occasions de se procurer le pass seront nombreuses. Et le train contient 500 places.
Il sera plein.
Le club a accepté. On s'est engagé moralement, mais à réussir à réunir au moins 300 personnes. Sachant que si on n'est que 300, le club a accepté aussi de prendre le risque financier, donc parce qu'il faut être un peu plus de 400 pour équilibrer. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment une opération qui a été calculée au plus juste. Comme dit, on accepte. L'idée c'est d'être au moins 300, enfin,
si
à 400
d'équilibre. Il faut qu'on soit effectivement 500 là dans le train, parce qu'on fait un dep à Mulhouse. Ça fait X années que ça n'a pas eu lieu. Là, c'est quand même.
Après,
là, aussi culture club. Si on parle de culture club, faut y aller quoi.
Il y a des assos qui partent en bus, hein, puisque certaines n'ont pas voulu faire marche arrière sur l'organisation. Donc ça va quand même amputer une partie du potentiel. Après, on parle toujours que de 500 places, effectivement, pour la Mulhouse, c'est pas énorme. Comme dit, le club le fait de toute façon à un prix coûtant. Comme dit, le point d'équilibre autour de 400. Si un bénéfice est généré, ça sera reversé dans une action pour un autre déplacement plus tard. Donc voilà, il y a vraiment tout qui a été mis en place pour qu'il y ait une facilité, un arrêt, un départ de la Méno, des bus normalement de la gare de Mulhouse au stade. Donc tout est fait effectivement pour qu'on remplisse ce train pour aller soutenir le Racing.
Et d'ailleurs, on a pas mal critiqué le club, à juste titre. On peut quand même souligner que c'est une bonne initiative, même si elle était un peu tardive, puisque ça a été organisé un petit peu à l'arrache, mais au moins c'est fait, et je pense que c'est quand même à mettre au crédit du...
Ça va être sympa d'avoir ce train qui va chanter de Strasbourg jusqu'à Mulhouse.
Pour la petite histoire, donc le train bleu, c'est une initiative qui avait vu le jour dans les années 70, et l'un des initiateurs, c'est André Gehrig, l'ancien président de Mulhouse, qui avait lancé ça. Donc,
petit clin d'œil. Ouais.
En fait, il y a eu que trois trains bleus dans l'histoire. Ça, c'est le troisième. Il y en a eu deux qui.
Il y en a eu l'an passé.
Non, oui.
L'an passé,
c'était quelque chose
de régulier.
Oui,
c'est vrai. Matchs, en fait.
Non, mais je pensais au train qui ramenait les joueurs à Strasbourg après le match de Lyon. En fait, c'est vrai qu'il y avait plusieurs trains bleus. Mais là, c'est un train bleu qui va dans l'autre sens par rapport à la saison dernière, puisque la saison dernière, c'était un train qui partait du Haut-Rhin pour ramener les supporters à la Méno.
Normalement, le train bleu, c'est ça, en fait.
Ouais,
c'est Saint-Louis à Strasbourg, avec une multitude d'arrêts, les supporters qui, au fur et à mesure, montent, remplissent le train et descendent à la Méno. Quoi.
Ouais. Donc là, c'est un train bleu pour aller à Mulhouse.
Pour aller à Mulhouse. En tout cas, beau déplacement. Donc, on vous invite, bien sûr, à vous inscrire auprès des associations. Il faut le remplir, ce train, ça pourrait être sympa. Imaginez un train avec 500 supporters qui chantent.
Et là aussi, de
ça donne des frissons.
De
hein.
façon toute bête, j'ai envie de poser une question, mais vraiment bête. Qu'est-ce qui fait qu'on se déplace finalement quand tu es supporter du Racing? Qu'est-ce qui donne envie de se déplacer? Parce que c'est vrai que vous vous déplacez souvent.
Ah, tiens,
on se déplace souvent.
Tiens, on peut poser la question à la recordman.
Elle se cache dans le studio.
Parce que là, il faut qu'elle nous donne la réponse.
Non, Anaïs, d'accord.
Greg présente-la peut-être un petit peu, parce que c'est quand même quelqu'un. Alors, je vais même pas dire de chiffres, parce que je sais pas, peut-être toi tu le sais. Qui depuis, alors, je sais même pas de quoi, 10, 12 ans, fait tous les déplacements. Mais quand je dis tout, c'est d'Oberchef-Holzheim jusqu'à, je sais pas moi, Furiani ou.
Lovetsch, Rome.
Voilà.
Bien sûr, Tromsø. Ah, et t'as de la chance qu'on n'ait pas tombé contre Tromsø à l'extérieur. Hein. Yeah. Tromsø au nord de la Norvège.
Elle y serait allée, tu te rends compte quand même.
On les a eu à domicile, heureusement.
Non, d'ailleurs, on attend avec impatience que le Racing fasse la demande pour jouer les Dom-Tom en Coupe de France.
Ouais, sinon c'était Mayotte. Hein.
Comme
le FC Mulhouse, vous avez vu, voilà, ils se déplaceront du côté de Mayotte, hein, je crois, de mémoire.
Bah, pour répondre à la question, qu'est-ce qui fait qu'un supporter se déplace? Bah, forcément, la première impulsion, c'est l'envie de voir plus de matchs de son équipe que ceux à la Méno. Et puis après, très vite, bah, le côté camaraderie, festif, l'investissement dans une association fait que, bah, ça devient un loisir, en fait, et que, au-delà du match, il y a l'aller, il y a le retour, et bon, comme dit, toute cette ambiance conviviale autour des matchs, quoi.
Peut-être souligner la dimension humaine, effectivement, parce que c'est vrai que quand on est à la maison, on suit par Internet, etc., la radio, mais ça remplace pas peut-être le contact, avec les autres supporters, le match, etc., et c'est quelque chose d'important. Bon, moi, j'incite vraiment les supporters à se déplacer, à franchir le pas pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Là, c'est peut-être l'occasion contre Mulhouse de se lancer pour aller suivre le Racing. En plus, les conditions sont favorables. 20€ le ticket, hein, pour aller-retour. Et le billet de match inclus. Voilà, donc n'hésitez pas.
Juste les prochaines actions de la Fédé, on parlait du match.
Exactement,
que vous avez organisé pour les 60 ans. Il y a eu l'écharpe l'année dernière. Est-ce que cette année, il y a quelque chose de prévu?
Oui, on a toujours quelques idées. C'est pas ça qui manque. Donc, mais bon, on va réserver la surprise pour les prochains mois.
On voulait pas communiquer.
Non, parce qu'aujourd'hui c'est trop tôt pour faire de la com, puisqu'on a besoin de validation, on a besoin d'autorisation là pour l'idée en question. Donc c'est trop tôt pour en parler. Mais effectivement, toujours dans ce côté valorisation de l'histoire, en tout cas, on est toujours actif sur le sujet.
Ouais. Un petit mot sur le local après les matchs. Il y a un moment convivial. On peut se retrouver au local de la Fédé, par exemple. Peut-être, voilà, un petit mot pour les supporters qui auraient envie de pas rentrer chez eux après le match et parler avec d'autres supporters.
Et les nouveaux arrivants. Peut-être aussi.
Tout à fait, nous arrivons, voilà.
Le local de la Fédé, outre les visites ou les soirées à thème qu'on peut organiser de temps en temps, est ouvert après chaque match. Donc c'est l'occasion de se restaurer. Il y a toujours un petit plat au menu, de quoi boire et surtout de refaire le match et de faire un billard, de discuter tout simplement. Et tout simplement pour ceux qui sont intéressés pour faire un passage local, le mieux c'est de nous contacter par internet pour avoir quelques explications. Il y a une volonté de pas divulguer le lieu parce que on n'a pas forcément envie que ça fasse le tour et d'avoir des mauvaises visites. Mais en tout cas, tout le monde est le bienvenu. Il suffit de nous contacter pour venir.
Est-ce qu'il faut être encarté obligatoirement?
Absolument pas, non. Vraiment, l'idée, c'est de créer un espace convivial destiné à tous les supporters du Racing.
Allez, on va donner peut-être encore, avant de se quitter, l'adresse de votre site internet où vous pouvez retrouver toutes les actions, les invitations, les lieux à retrouver, et puis bien sûr les formulaires de contact et d'adhésion de la Fédération des supporters. Peut-être, Philippe, redonner l'adresse comme ça.
Oui, www.fsrcs.fr.
Voilà, c'est l'adresse. On l'a partagée sur la page Facebook de Planète Racing. Donc, si vous voulez rejoindre la Fédération ou si vous voulez rencontrer les joueurs, voilà, passer des moments privilégiés dans leur local et bien sûr se déplacer.
Il y a des actions avec d'autres supporters. Je pense que vous faites des vatsports ou des bowling ou d'autres choses. Hein.
Toujours des choses qui se passent du côté de la
fête. Une vraie vie associative en fait. Hein. Le bon exemple, c'est le laser quest qu'on avait organisé contre l'équipe du Racing l'année dernière. Donc après,
avec tous les joueurs du club qui étaient.
Voilà, donc c'est pas forcément ouvert au grand public, mais c'est vrai qu'après, au fur et à mesure, on vient une première fois au local, on s'investit, on donne des coups de main et on peut se retrouver à partager des moments sympas par la suite de ce type-là. Quoi.
Vous avez gagné au moins?
Ah, ils sont vifs. Hein.
Allez, on se quitte sur cette victoire des joueurs du Racing sur la Fédération au Laser Game.
Juste pour rappeler, le match, vous le suivrez en direct sur Strasse TV Herbèze ce samedi
à 18h
face à Auxerre 2, puis la semaine prochaine Planète Racing et le Morito Football Club dimanche et lundi.
Ouais, voilà, oui, effectivement. Ouais, si vous voulez entendre quelques infos sur le foot en Europe, voilà, c'est le dimanche 17h, 18h et 20h, 21h, Morito Football Club, ouais, avec des chroniqueurs divers et variés.
Allez, on se quitte avec le gridier habituel et puis on se retrouve la semaine prochaine.
Allez, Racing.
Bonne soirée, ciao.